Radio Caravane,
l'écho des coulisses.
Radio Caravane, l'écho des coulisses.
Des coulisses.
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 Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre compagnie et depuis combien de temps travaillez-vous ensemble ?
Alors moi c'est Cochise.
Moi je m'appelle Idriss.
Moi Raphaël.
Et on est la compagnie du coup La Mob à Sisyphe. Moi et Cochise on se connaît depuis l'enfance. On a rencontré Raphaël en formation à l'école de cirque de Toulouse, le Lido. Donc on travaille ensemble depuis cette époque-là. Et plus spécifiquement, la compagnie La Mob à Sisyphe, elle existe depuis qu'on est sorti de cette formation-là, le Lido. Donc au jour d'aujourd'hui, ça doit faire 1 an et demi, plus les 3 ans de la formation.
On a commencé à travailler ensemble la 2e année de la formation.
Ça vient d'où le nom de la compagnie, La Mob à Sisyphe?
Ça vient d'avant même qu'on travaillait ensemble.
Alors en fait, la vraie histoire qui n'a aucun sens, c'est qu'on jouait dans un spectacle. Et à un moment, sort cette idée de parler du mythe de Sisyphe. Et alors nous, il se trouve que le mythe de Sisyphe, on trouvait que c'était un peu ringard et un peu cliché, parce que c'est quand même un truc en cirque. Le mythe de Sisyphe, c'est un peu la poule aux œufs d'or pour les gens qui veulent pas faire une dramaturgie.
C'est vrai que ça faisait du fait qu'on avait beaucoup entendu parler du mythe de Sisyphe, en tout cas dans le cirque contemporain les dernières années.
Mais voilà, et donc on commence à s'imaginer Sisyphe à toutes les sauces, donc on... Sisyphe, ça devient Martine, quoi.
Ouais, ça. Sisyphe à la plage.
Sisyphe fait du vélo. La mob à Sisyphe. Et ça nous fait marrer, de cette image de ce mec-là, Sisyphe, qui a une mob. Mais c'est tout.
Et c'était pas évident à défendre au début.
Ouais. Hein.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble ?
Est-ce qu'on en avait envie ? Non.
Déjà, on était dans une promo de 15 personnes, avec plein d'univers différents. Surtout le Lido, c'est une école qui pousse chacun à aller plus loin dans son univers personnel et tout ça. Moi, je sais que du coup, le fait d'être dans une promo, pour moi, ça faisait ressortir aussi les univers par lesquels j'étais attiré et avec lesquels je sentais que ça me donnait envie d'essayer des choses, quoi.
Avant de se faire dans une perspective d'avenir, en fait, ça s'est fait aussi dans les moments immédiats où on se dit, il y a une échéance courte... est-ce qu'on pourrait pas faire un truc ensemble comme ça par affinité pure, par envie de se découvrir, et puis ça s'est fait petit à petit comme ça, et puis c'est devenu une projection qui serait de dire est-ce qu'on monterait pas notre compagnie pour continuer à travailler ensemble comme ça, parce qu'on s'y retrouvait bien, j'ai l'impression, autant dans les façons de dialoguer que dans les univers qu'on essayait de développer.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Lido?
Je sais pas si on a le droit.
Que maintenant, avec les nouvelles lois européennes qui viennent de passer, peut-être donner la version tout public.
Ouais, c'est ça.
C'est une super école.
Voilà.
Le Lido, il y a un secteur amateur où il y a 300, je crois, il y a pas mal d'enfants, quoi, de 7 ans à 18 ans, qui font du cirque en amateur. Et nous, avec Idriss, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, on a commencé le cirque depuis petit, quoi, au Lido. On fait 2 heures par semaine, puis 5 heures, puis après tu fais des tournées l'été, tout ça en amateur, mais quand même de plus en plus intense. Et après, il y a le secteur professionnel. C'est une formation de 3 ans maintenant. Nous, c'était 2 ans plus une année d'insertion professionnelle.
Ouais, parce que c'est en train de changer, en fait. C'est une formation qui existe depuis un bout de temps maintenant, parce que nous, on était déjà la 22e promotion, donc là, je pense qu'ils en sont à la 25e, quelque chose comme ça. Et là, cette année, je crois, à partir de là, ça devient une formation reconnue par l'État, institutionnelle, qui donne accès à un diplôme. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Raph, c'est une formation qui pose la question aux élèves qui la font de leur place en tant qu'auteur de cirque, et de leur envie à eux en tant que personne. Et vraiment, c'est une école qui encourage ça, au-delà de simplement la technique.
J'ai souvent entendu Olido qui disait qu'ils prétendent pas nous apprendre des choses, mais plus partir de nous et nous aider à développer nos propres outils et nous pousser dans ce sens-là. Après, c'est en 2 ans, la première année, elle est plus faite pour un peu ouvrir les possibilités et donc essayer plein de choses. Donc on nous propose en tout cas d'essayer régulièrement des choses, de sortir de son univers, de ses zones de confort, pour après, en 2e et 3e année, commencer à recentrer et conscientiser ses points forts et ses envies aussi.
Ouais, des fois, il disait, genre, c'est les élèves qui font l'école.
Votre compagnie est accompagnée par la PACT. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cet accompagnement ?
Alors, parce que ça, c'est la magie de la PACT, c'est que c'est un peu personnalisé, donc c'est toujours un peu difficile de dire dans les grandes lignes à quoi ça consiste. Mais il y a des choses qui existent pour tout le monde, donc c'est un accompagnement qui vise des jeunes compagnies sur une première création. La plupart du temps, c'est des compagnies toulousaines, parce que forcément, c'est des gens qui rayonnent dans le réseau Lido Grainerie, mais pas forcément. Donc ça s'ouvre un petit peu, et l'idée, c'est que la PACT accompagne la première création jusqu'au premier temps fort ou jusqu'à la sortie, sur une durée maximale de 3 ans. Et c'est un accompagnement qui est administratif, puisque la grainerie devient producteur délégué le temps que la compagnie se structure au niveau administratif et puisse exister toute seule. Donc ça fait par exemple que dans le concret, nous, on peut être payé par la grainerie plutôt que d'avoir monté une structure juridique pour se payer. payé quand on travaille. Et on profite de l'expérience et du réseau de la grainerie. Et la plupart des compagnies de la grainerie ont un interlocuteur privilégié qui est Marie-Laurence, qui est une magicienne,
beaucoup, quoi, ouais.
Qui est notre maman, et qui nous sauve chaque jour de notre propre ignorance. Qui nous dit, mais ça, vous savez que ça existe? Et puis nous, on lui répond, non, c'est quoi? C'est un endroit génial. Et nous, on dit, ah, merci, parce que sinon, on l'aurait jamais su. Et on a un accompagnement artistique aussi, qui est assuré. Alors, nous, c'était quelqu'un avec qui on voulait travailler de toute façon, donc c'est Benjamin de Mathéis, de la compagnie Ça s'écrit pas, qui est payé en partie par la grainerie pour nous aider à développer notre projet. En étant regard extérieur, c'est-à-dire que nous, on reste les auteurs. C'est la volonté du studio que les compagnies accompagnées soient des compagnies d'auteurs. Par exemple, il est pas question dans l'idée d'arriver avec son metteur en scène qui soit la personne qui tienne le projet, qui soit pas émergent. L'idée, c'est vraiment de garder cette position-là dans le studio.
Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes accompagné par la Pacte?
Ça fait depuis janvier officiellement. Ils nous accompagnent jusqu'à ce que notre projet puisse en vivre tout seul, quoi. Enfin, on soit indépendant.
Mais maximum 3 ans, quoi.
Mais comme c'est la Pacte, le maximum, c'est prend ça. Des guillemets.
C'est assez...
Parce que je pense que si on tombe sur un projet qui a besoin d'aide pendant 3 ans et demi, c'est possible. C'est pas l'objectif de la chose.
C'est ça, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'accompagner jusqu'au premier temps fort de diffusion, quoi. Ça peut aller plus loin que la première.
Une fois que ça tourne, quoi.
L'exemple, par exemple, c'est il y a un temps fort assez important sur Avignon, où il y a plein de dates, qui se fait un peu tous les ans. Et par exemple, l'idée, c'est que si la compagnie fait sa première, disons en novembre, en décembre, et qu'en fait en juillet d'après, elle fait Avignon, elle est accompagnée jusqu'à Avignon, parce que c'est le grand temps un peu de diffusion où faut être au rendez-vous.
Votre spectacle est en cours de création, à quelle étape en êtes-vous?
Si on compte depuis janvier, en tout cas, on s'est fait une bonne année de recherche, simplement. Donc essayer de trouver des nouvelles matières, continuer à faire avancer certaines matières qu'on avait déjà entamées en troisième année au Lido et tout ça, tout en gardant l'idée générale du spectacle. Mais l'idée, c'était vraiment de se laisser encore beaucoup d'ouverture. Et là, on attaque la partie écriture, quoi. On va se mettre à écrire le spectacle, vraiment, penser la dramaturgie. Bon, il y a encore plein de choses qui vont arriver. On va encore être dans de la recherche, certainement, mais... Nous, on aimerait sortir en automne 2019, et il nous reste cette année-là pour finaliser le spectacle, quoi.
On pourrait sortir un spectacle maintenant, qui serait pas fini, qui serait pas, mais on aurait la matière pour le faire. Mais nous, notre envie, c'était vraiment de pas sortir le premier spectacle qu'on arrivait à sortir, et de pas être pressé, et de prendre le temps d'avoir ce timing pour étirer les choses.
Ce qui, au final, était bien, parce que ça nous a laissé aussi le temps d'apprendre pas mal de choses qu'on connaissait pas sur... comment on fait une production, rencontrer le milieu aussi, savoir de quoi ça parle vraiment, parce qu'on en entend parler à l'école, mais dans la pratique, c'est notre affaire.
Ouais, tout ce qui est hors de la scène, quoi, en fait, c'est le plus gros du travail, quoi.
Vous êtes monté plusieurs fois sur scène, déjà, pour présenter les avancées de votre travail. Comment est-ce que ça a fait évoluer votre création?
Ben, nous, je pense que c'était essentiel,
ouais.
Parce qu'on s'est aperçu que... À un moment, à rester tout seul avec le genre de matière qu'on défend, on touchait à une barrière. En fait, il y a plein de moments où on a joué, on s'est aperçu de ce qu'on était en train de mettre en place vraiment au moment où on a joué. C'est-à-dire, c'est le moment où on réalise toute l'ampleur de ce qu'on fait, où on découvre des subtilités qu'on n'arrivait pas à conceptualiser tout seul dans une pièce. Alors, il y a des choses, nous, par exemple, on fait beaucoup de choses qui sont sur le registre burlesque. Donc, il y a des choses, par exemple, qui en théorie sont drôles, mais tout l'enjeu, c'est d'aller vérifier, en fait. Et sans jouer, c'est impossible. On est tombé sur des choses dont on pensait qu'elles allaient marcher, qui, en fait, en public, marchaient pas vraiment. Des choses qui, pour nous, étaient complètement anecdotiques, qui sont devenues grâce au feedback qu'on a eu du public, des choses plus centrales. Donc ouais, nous,
c'est un vrai besoin, en fait. On a quand même un processus de création qui nous est assez propre. Et aussi d'avoir des deadlines, nous, ça nous pousse un peu. Je pense qu'on a besoin, en fait, d'avoir énormément de liberté pour ouvrir des possibilités et se surprendre. Et aussi, à côté de ça, on a besoin des moments de recentrer les choses et de jouer devant des gens, ça aide, quoi.
Je pense que dans une création, ça fait des jalons qui sont importants à un moment. Et symboliquement, des fois, quand on travaille sur quelque chose un peu la tête dedans, tous les trois, pendant 2 semaines, le jouer en public, ça permet de jalonner ce processus et de dire, aujourd'hui, on en est là, on a accompli ça, on a changé ça, on a validé ou infirmé ça. Ça permet de faire ce truc-là et d'avoir l'impression d'avancer, en fait. Parce que j'ai l'impression que si on était, nous, personnellement, si on était que la tête dedans, il y a des moments où on aurait l'impression de stagner pendant trop longtemps, je crois.
Sur scène, vous jouez sur l'échec, la maladresse, le raté, la réussite. D'où viennent ces idées?
Je pense que, comme beaucoup de choses, ça vient de nous, de notre relation, des trucs qui nous font marrer.
Ça nous amuse pas mal, ouais.
Voilà.
Par exemple, les cascades, quoi, de chuter, de se péter la gueule en public ou pas, ou de tomber, de rater des trucs, quoi, ça nous fait marrer. Alors, Du coup, on part de ça, fait une base, quoi.
Ça fait partie de notre langage, un peu. D'un langage commun qu'on a entre nous, en tout cas. Avant même de faire des choses sur scène ensemble, on rigolait avec ça déjà, en fait. D'ailleurs, il y a certaines choses qui sont venues de jeux qu'on avait dans la vie entre nous et qui ont fini par arriver sur scène.
En fait, on part pas de qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur scène, mais plus de on fait les choses. Et du coup, c'est comme ça que ça arrive sur scène, mais on se pose pas la question au préalable
de parler de ci.
Ouais, voilà.
Et après, on en réfléchit la dramaturgie et la mise en scène.
Quoi. Mais je pense que c'est ce truc de l'échec et de la maladresse, c'est vraiment un truc qui, dans la pratique, ça nous fait vraiment marrer. Il y a toujours un moment où, quand on fait des impros, quand on fait des trucs, quand on s'amuse entre nous, il y a toujours un moment où le truc qui nous fait le plus marrer, c'est quand il y en a un qui se plante, en fait, tout simplement. Parce que la dynamique du trio, elle crée ça aussi, elle crée des choses comme ça qui font que, par exemple, on travaille avec des élastiques, donc on s'amuse à se tirer des élastiques les uns sur les autres et à viser des objets, à faire trucs. Et forcément, ça nous fait toujours marrer quand il y en a un qui se le prend dans la gueule alors qu'il voulait l'envoyer sur quelqu'un d'autre. C'est comme...
Un bon exemple, c'était au Grand Rond. Et on a une lampe dans le spectacle et... La première et la deuxième, en fait, Cochis, il a pété la lampe, quoi, sans faire exprès, quoi. Du coup, à chaque fois, fallait la réparer et tout. On lui disait, Coche, arrête de péter la lampe et tout. Ça va pas tenir la semaine, quoi. La troisième fois, il a réussi à pas la péter. Et en fait, on s'est dit, mais merde, c'est vachement moins bien, quoi. Du coup, Coche, il faut que tu pètes la lampe, c'est vachement mieux. Il y a beaucoup de ces échecs-là qui naissent comme ça aussi.
Ouais. Du coup, ouais, ça devient du travail de l'échec. Celui qui a le plus gros échec, c'est le mieux. Du coup, ça inverse le truc de ce qui est raté, c'est réussi, du coup. Donc, nous, on s'amuse à inverser ce qui nous fait plaisir ou ce qui... quand on réussit une accro, c'est pas top. C'est
ouais. Quelle est la place de l'humour dans votre spectacle et qu'est-ce qui vous fait rire, vous, au quotidien?
Et nous, on n'est pas difficile.
Je crois qu'on est bon public.
Je crois qu'on est... Et on est bon public entre nous. Après, pour nous, la place de l'humour, je pense, elle est... J'ai l'impression qu'elle est centrale sans l'être, pour moi. Alors ça, c'est peut-être un truc dont on n'a pas discuté, mais j'ai l'impression que c'est une forme d'expression qui nous semble intéressante, qui nous semble fertile, qui marche bien avec la dynamique du trio, qui nous correspond. Mais c'est pas la seule corde qu'on a envie de mettre dans ce spectacle. Moi, j'ai cette phrase que j'aime beaucoup d'un auteur que j'aime bien qui s'appelle Terry Pratchett et qui dit que l'humour, c'est une façon drôle d'être sérieux. Et moi, je le pense dur comme fer. Et je pense que c'est ça qu'on cherche. On fait pas juste de la blague pour la blague, mais comment, à un moment, ça met en lumière aussi des relations humaines, ça met en lumière des vrais enjeux. On dépasse juste le petit gag rigolo, potache. On essaye de chercher ça.
Finalement, c'est pas au centre parce que l'humour, c'est un peu notre média à nous. Comme si un peu ça nous dépassait, quoi. À un moment donné, on a envie de faire des blagues, quoi. Mais je pense pas que ce soit vraiment au centre de ce qu'on veut faire.
En fait, c'est le genre de contraste où je pense que nous, si on fait autant de blagues et qu'on veut autant en faire, c'est aussi qu'on voudrait parler de solitude, qu'on voudrait parler d'ennui, qu'on voudrait parler de désarroi, qu'on voudrait parler de silence. Et en fait, pour les personnages, ce truc un peu léger, ça en est l'échappatoire. Mais cet humour-là, il existe aussi, je pense, un peu pour nous dans le spectacle, parce qu'il y a quelque chose qui vient l'alimenter. Et l'humour, je pense que ça sort pas de nulle part. Et c'est pas anodin, quoi.
Ouais, l'humour, c'est plus un outil, quoi, qu'un propos, quoi, qu'on veut descendre.
Et après, nous, ce qui nous fait marrer dans la vie, tout.
Pour ça, je disais qu'on met pas tout sur scène.
Quelle est la place des objets et du décor dans votre spectacle?
Les objets, c'est... je sais pas si on entend. C'est ce qui traînait au Lido, quoi.
Merci. On voulait faire genre on était sérieux.
À la base, c'est ça. Ouais. Ce début de scénographie qu'on a avec la table et fauteuil, c'est arrivé au premier essai en troisième année. Mm-hmm. Donc le premier jet de quelque chose qu'on a fait, quoi. Et c'était vraiment pas réfléchi, on a pris ce qui traînait, machin. Et en fait, ça a déjà commencé à esquisser un semblant d'ambiance qui nous a plu et qu'on a de plus en plus identifié. Et maintenant, je pense que la scénographie est devenue une part importante du spectacle, dans le sens où on la pense dans la dramaturgie, quoi.
En fait, pour nous, c'est une dramaturgie qui se déroule pratiquement en lieu clos, qui se déroule dans un appartement, ou en tout cas un lieu de vie. Donc on voulait vraiment donner cette espèce d'impression de petit salon dans un espèce d'appartement mansardé, parce que ça a alimenté vachement cette idée que pour nous, c'est vraiment des gens qui existent quelque part et qui n'ont rien à faire d'autre qu'exister, et qui doivent un peu... courir en avant en trouvant des occupations dans l'immédiat. Nous, pour qu'un truc finisse dans la scénographie, il suffit que pendant une réunion, à un moment, il y a un élastique qui traîne et puis qu'on se fasse des gags avec un élastique. Il peut arriver la même chose à nos personnages, en fait. Du coup, il y a plein de choses qui sont venues se rajouter comme ça, purement de nous qui traînons à Emmaüs, qui prenons un objet en disant « Ah, regarde, c'est marrant ce truc !» Banco, c'est marrant. c'est le même jeu.
comme si dans un premier temps, en fait, ça nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous amuse ou qui nous plaît. Petit à petit, on l'identifie, on conscientise et on le met sur scène, quoi.
Du coup, Emmaüs, c'est une bonne source d'inspiration aussi, quoi.
Ouais, il y a plein de choses de ce spectacle qui deviennent petit à petit déconsommables, en fait. On essaye d'avoir toujours un bol et une tasse comme élément de décor, mais par exemple, très vite, il s'est avéré que le bol et la tasse devenaient déconsommables parce qu'ils finissaient cassés. Pour de très bonnes raisons, en fait. Petit à petit, c'était ça la chose à laquelle on arrive, c'est de dire « Ah, mais en fait, quand tu pètes la lampe, c'est drôle. » Eh ben ouais, mais en fait, quand tu pètes le bol, bah, c'est drôle aussi. Parce qu'on aime bien casser des trucs, c'est un truc qui nous intéresse vachement. C'est ce côté un peu sale gosse. Ça rejoint ce que je disais sur le côté un peu dramatique, c'est que finalement, c'est des mecs qui déconnent, mais au final, qui cassent tout. Il y a un côté irréversible aussi à cette espèce de légèreté de « Haha, qu'est-ce qu'on s'amuse, on casse tout. » Oui, mais une fois qu'on a tout cassé, bah, il reste plus rien. On peut pas revenir en arrière. Et ça existe aussi, même pour nous dans la pratique, parce que ça nous arrive très souvent de casser un truc au moment où il faut pas, et ça fait des émotions.
Ouais, on gaspille la nourriture aussi un peu. C'est intéressant, ouais, ça.
C'est vrai qu'on a envie de parler de ça aussi dans le spectacle. Mm. À quel moment ça nous dépasse, à quel moment, quand on a tout cassé, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on s'amuse encore ou pas, quoi?
Personnellement, de, je sais pas, gaspiller la nourriture sur scène ou casser des choses, ça fait quelque chose. Et du coup, c'est intéressant aussi, ça remue des trucs.
Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, parallèles ou à venir?
On a eu l'idée là il y a 10 minutes, ça serait de faire un court-métrage où on ferait reprendre notre rôle dans le spectacle par nos pères respectifs. On a plein de petits projets qui existent sur le papier comme ça, qui n'arriveront peut-être jamais, mais ouais, on a plein d'envie, en fait.
Après, concrètement, on n'a rien entamé de plus pour l'instant. On se concentre déjà là-dessus, quoi. C'est un gros truc. Après, chacun de notre côté, des fois, on travaille sur d'autres projets.
Mais à trois, ouais, d'abord, on s'enquille à sortir ce fichu spectacle.
C'est ça. Après, il y a plein de fois où on se dit, bon, ben ça sera dans le prochain spectacle, parce que là, ça peut pas.
Non, bien sûr, ouais, je pense que nous, on part du principe qu'il y a un prochain spectacle.
Ouais.
Ça fait aucun doute.
Quand est-ce que vous jouez sur l'Européenne de cirque?
On joue le samedi, je crois, c'est le 20. Le 20, c'est sûr. Je crois que c'est le samedi, le 20.
C'est samedi.
Mais ouais,
c'est sûr. Ouais. Mais c'est le 20.
Toi, t'es sûr que c'est le samedi?
C'est le 20.
Nous, on est sûr que c'est le 20.
Donc ça samedi. Samedi 20.
Ah ouais, c'est 15h30. Il y a d'abord la compagnie LPM, puis la Mob Assisif, puis José et Dani.
D'accord, avec le Studio Pacte.
Avec le Studio Pacte.
Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, vos dates?
Pour l'instant, on présente des étapes de travail par-ci, par-là, mais on n'est pas encore dans une optique de diffusion, mais on va commencer à mettre ça en place. Il y a un teaser sur YouTube.
Si vous cherchez la Mob Assisif, normalement, c'est la seule chose qui sort. Mais vous pouvez suivre la page Facebook, la Mob Assisif, il n'y a aucune info dessus, mais ça va pas tarder.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous.
Merci à vous.
Radio Caravane, l'écho des coulisses.
Radio Caravane, l'écho des coulisses.
Des coulisses.
Coulisses.
Coulisses.